Et voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Jusqu'à quand la première ministre britannique Theresa May pourra-t-elle gouverner ? Nouvel échec de son texte pour le Brexit hier soir devant le Parlement. Une sortie encadrée de l'Union européenne est de plus en plus remise en question. Nous irons à Londres et à Strasbourg.
Et puis nous rejoindrons ensuite notre correspondante à Melbourne, en Australie. L'ancien numéro 3 du Vatican y a été condamné cette nuit à 6 ans de prison pour pédophilie.
Bernard Tapie s'est exprimé devant la justice hier, jugé pour un arbitrage qui lui a rapporté plus de 400 millions d'euros en 2008. Il s'est montré offensif, vous l'entendrez.
Et puis les camemberts au lait pasteurisé seront-ils reconnus comme AOP ? L'Institut National des Appellations d'Origine y songe. Un député proteste, il va distribuer aujourd'hui du camembert de Normandie au lait cru donc, Clara, à l'Assemblée Nationale.
Et nous y reviendrons dans une dizaine de minutes, Guillaume. Face aux dérapages verbaux de certains élus, faut-il polisser notre vie politique ? La question sera posée par Frédéric Saïs après ce journal dans son billet politique. Mais d'abord, je vous propose ce reportage qui nous vient de Baghouz en Syrie, non loin de la frontière irakienne. C'est la dernière poche du groupe État islamique dans le pays. Les forces démocratiques syriennes, soutenues par la coalition internationale, y annoncent la fin imminente de l'offensive contre Daesh. Près de 3000 djihadistes se sont d'ailleurs rendus aux mains des FDS ces dernières 24 heures, selon l'Alliance arabo-kurde. Des djihadistes que notre envoyé spécial Aurélien Colli a pu rencontrer. Voici ce qu'il a entendu, ce qu'il a vu.
La nuit tombe sur le désert syrien. Au détour d'une dune, des forces spéciales américaines qui photographient et relèvent les empreintes d'une dizaine de djihadistes. 200 mètres plus loin, une autre unité. Cette fois, des forces spéciales kurdes qui fouillent une trentaine d'autres combattants. Tous sortent de l'enclave de Baghouz, éclopés, gravement blessés. Je m'appelle Zouer, je suis né en 99, je viens de Fès. J'ai rejoint Daesh il y a 2 ans, explique l'un d'eux avec une tête de gamin. Je suis venu pour le djihad du Maroc, pour défendre l'État islamique. Islamique, ajoute-t-il, incapable de se lever, il est blessé à la jambe et à l'estomac. Assis en tailleur, main sur la tête à quelques mètres, une autre tête de gamin et un bras cette fois ensanglanté. Il s'appelle Mohamed, il est syrien, il a 25 ans. J'étais mécanicien depuis 3 ans, c'est mon frère qui était dans l'État islamique. Il est encore à l'intérieur, explique-t-il. L'officier de renseignement kurde qui l'interroge n'y croit pas une seconde. Hier j'ai été blessé et j'ai décidé de partir. C'est très mauvais à l'intérieur, ils ne combattent plus, les gens veulent sortir, promet le jeune homme Agar. L'officier de renseignement confirme, cette nuit il attend 1 millier de combattants et leurs familles qui se seraient rendus. Il restera selon lui 700 personnes à l'intérieur qui sortiront aussi dans les 48 prochaines heures après une nouvelle vague de frappes aériennes ou des tirs de snipers.
Aurélien Colli, envoyé spécial de Radio France à Baghouz en Syrie. C'est un rejet à 391 voix contre 242. Rejet franc, presque massif, et un nouveau coup dur pour la première ministre britannique Theresa May. À 16 jours de la sortie officielle du Royaume-Uni de l'Union européenne, les députés britanniques ont pour la deuxième fois refusé d'adopter son accord de Brexit. Nous retrouvons pour une analyse matinale notre correspondant à Londres, Antoine Gignot, bonjour.
Bonjour.
Le premier constat, Antoine, est que Theresa May a cette fois perdu totalement le contrôle du gouvernement. Est-elle encore capable de gouverner ?
Et cette question, plusieurs journaux britanniques la posent, effectivement, ce matin. Ils publient une photo de la première ministre, les bras ballants, le regard vide. Au total, 75 députés conservateurs ont voté contre Theresa May. Les alliés unionistes nord-irlandais l'ont lâché. Les libéraux, démocrates, les verts, les écossais réclament un nouveau référendum. Les travaillistes veulent organiser des élections législatives anticipées. Elle le dit dans un souffle, la voix brisée. Je regrette la décision prise par le Parlement. Maintenant, il va falloir assumer les choix qui ont été faits. Difficile pourtant d'imaginer que la Première ministre puisse continuer encore longtemps à diriger le pays. Les tabloïds qu'il avait jusqu'ici épargnés commencent à la prendre pour cible. Il y a eu depuis le référendum presque 1 millier de jours, titre ce matin le Sun, et nous n'avons pas avancé d'un pouce sur la question du Brexit.
Tout est encore possible à 16 jours du Brexit officiel tel qu'il avait été décidé. Antoine, le ministre allemand des Affaires étrangères, comme le président du Conseil européen Donald Tusk, affirme tous les deux qu'on se rapproche de plus en plus d'une sortie sans accord de l'Union européenne. Les députés britanniques sont censés voter aujourd'hui pour ou contre une sortie sans accord. Et beaucoup de ministres britanniques se disent prêts à prendre ce risque.
Oui, ils sont au bord de la falaise, mais ils refusent totalement de ralentir. Si on écarte le no deal, si on élimine la possibilité de sortir de l'Union européenne sans aucun accord, alors on n'a plus aucun moyen de faire pression sur Bruxelles, explique le secrétaire d'État à la famille. Comme de nombreux membres du gouvernement, Nadim Zahawi pense encore que seule la perspective d'un scénario catastrophe peut inciter les dirigeants européens à faire des concessions de dernière minute. En réalité, le Royaume-Uni souffrirait cruellement d'un Brexit anarchique avec une explosion des frais bancaires et téléphoniques, les médicaments en rupture de stock, des perturbations dans les transports et surtout des centaines de kilomètres de bouchons autour des ports britanniques.
Merci Antoine Gignot depuis Londres pour France Culture. Partons maintenant à Strasbourg prendre le pouls des responsables européens. Bonjour Quentin Dickinson.
Bonjour Clara, bonjour à tous.
L'Union européenne s'est dite prête hier soir, Quentin, à examiner une nouvelle demande du Royaume-Uni pour un report du Brexit au-delà du 29 mars. Elle reste passive et met Londres devant ses responsabilités.
Oui, car tous les efforts déployés par les négociateurs européens ces dernières heures n'auront donc abouti à faire changer d'opinion qu'une quarantaine de députés britanniques, bien loin de l'inversion de résultats escomptés. Ce n'est pas parce que nous nous attendions à ce résultat que nous n'en sommes pas profondément préoccupés, disait hier soir l'eurodéputée française Nathalie Griesbeck, en exprimant un sentiment largement partagé ici. De son côté, vous le disiez, le ministre allemand des Affaires étrangères Heiko Maas complète cette perception. Pour lui, on est en train de glisser sur la pente fatale qui mène au Brexit dur, c'est-à-dire sans accord préalable. Dans les prochaines heures, Theresa May devrait proposer une nouvelle motion à la Chambre des communes, à qui il sera demandé de se prononcer sur ce Brexit sans accord. Selon toute probabilité, cette hypothèse sera elle aussi rejetée, mais sans que l'on aperçoive par quels moyens les parlementaires de Westminster pourraient l'empêcher de se produire. De son côté, le négociateur en chef européen Michel Barnier ne se fait aucune illusion. Pour lui, il faut maintenant accélérer la mise en place de mesures d'urgence destinées à atténuer le chaos que ne manquera pas de déclencher une absence d'accord dans 17 jours exactement. D'autant, rappelle-t-il, que pas d'accord signifie en fait pas de période de transition. Lors d'un dernier vote, les communes seront alors amenées à demander à Madame May de retourner chez Donald Tusk et Jean-Claude Juncker pour solliciter une prolongation de la période de 2 années qui prend fin le 29 mars. Les 27, dont l'unanimité est requise pour ce faire, ne sont pas opposés par principe à ce recours, mais ils y mettraient 3 conditions, que Londres dise pour quel objectif, pour quelle durée et avec quelle chance de succès. On reste ce matin très loin des réponses concrètes qu'exigent ces questions.
Loin des réponses concrètes pour ces questions. Merci beaucoup Quentin Dickinson. Vous étiez en direct depuis Strasbourg. J'ajoute qu'à l'instant, le commissaire européen aux affaires économiques, Pierre Moscovici, estime qu'il n'y aura pas de négociation d'ici au 29 mars sur le Brexit. L'Union européenne, qui, dans son espace aérien, interdit les Boeing 737 MAX, elle emboîte ainsi le pas à la Chine, l'Indonésie, Singapour, l'Inde, l'Australie et attend les résultats de l'enquête sur le crash d'un Boeing du même type. C'était dimanche dernier en Éthiopie. Il a fait 157 morts. Les États-Unis, eux, refusent toujours de se rallier à cette interdiction. Boeing, rappelons-le, est un constructeur américain. Il a reçu hier encore le soutien du président Donald Trump. Il accueille un quart des détenus américains condamnés à mort. L'État californien annonce un moratoire sur les exécutions. 737 détenus vont donc bénéficier de cette suspension. Le gouverneur de Californie, qui est un démocrate, estime que la peine de mort est incompatible avec les valeurs fondatrices de son État. Il va donc signer un décret mettant fin au protocole d'injection mortelle. La dernière exécution en Californie remonte à 2006. 3 détenus par ailleurs ont été exécutés aux États-Unis depuis le début de l'année, 2 au Texas, 1 en Alabama. Justice encore en Australie cette fois, elle a condamné cette nuit l'ancien numéro 3 du Vatican, le cardinal George Pell, condamné à 6 ans de prison pour pédophilie. Il avait été reconnu coupable d'agression sexuelle envers 2 enfants de cœur. Âgé de 77 ans, George Pell risquait jusqu'à 50 ans d'emprisonnement, condamné donc cette nuit finalement à 6 ans. Caroline Lafargue était à Melbourne lors de l'audience, elle raconte.
George Pell est resté parfaitement stoïque, épargné par les caméras qui étaient toutes exclusivement pointées sur le juge Peter Kidd. Le cardinal n'a montré aucune émotion quand le juge a détaillé le viol qu'il a commis sur 2 enfants de cœur en 1996.
Il est impossible que vous n'ayez pas été conscient de la gravité de vos agressions sexuelles choquantes sur ces 2 garçons. Cardinal Pell, levez-vous s'il vous plaît. Je vous condamne donc à un total de 6 ans de prison, dont 3 ans et 8 mois incompressibles.
Présent au tribunal, le père d'un des deux enfants de cœur, qui est décédé en 2014 d'une overdose d'héroïne, s'est dit triste et déçu de cette peine de prison qu'il juge trop clémente. Un avis partagé par d'autres victimes, d'autres pédophiles qui manifestaient devant le tribunal, comme cette femme qui souhaite rester anonyme.
Pelle va en prison, c'est déjà ça. Mais cela ne rend pas justice à tous ceux qui se sont suicidés ou sont morts à cause de leur traumatisme.
Le cardinal australien continue à clamer son innocence. Le jugement en appel est prévu début juin, mais en attendant, le voilà inscrit à vie sur le registre des délinquants sexuels. Et bien sûr, il reste en prison.
Emmanuel Macron poursuit sa visite en Éthiopie. Il a signé hier un accord de coopération en matière de défense pour accompagner la relance de la marine éthiopienne. La France espère profiter de la récente ouverture politique et économique de l'Éthiopie.
8h10 sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal. Les débats au procès de Bernard Tapie se sont véritablement ouverts hier.
Oui, après une journée entière consacrée aux demandes de renvoi et autres sujets de procédure, l'homme d'affaires est venu donc hier s'expliquer à la barre. Il est jugé avec 5 autres protagoniste dans l'affaire de l'arbitrage rendu en sa faveur en 2008 pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Bernard Tapie a été le premier hier à s'expliquer, Florence Turme.
Il risque toujours sur le ton de l'ironie quelques allusions à sa maladie. Dans ce dossier, il y a de quoi tomber par terre. Après, on cherche pourquoi j'ai un cancer de l'estomac. Mais durant ces 2 heures entières de déposition, debout face au tribunal, c'est un Bernard Tapie offensif qui livre sa version de la vente d'Adidas. Une vente, selon lui, aucunement liée à des difficultés financières, mais à son entrée au gouvernement de François Mitterrand. Et entre être un très très riche industriel et un moyennement riche ministre, je ne résiste pas. Demandez-vous plutôt qui a encaissé le fric, s'exclame encore Bernard Tapie. Le verbe haut, le prévenu regarde autour de lui, savoure son effet. 3 milliards d'euros pour le Crédit Lyonnais et quand une banque qui appartient à l'État utilise à 80% des sociétés offshore, c'est une rigolade. L'homme d'affaires devient fataliste, tout le monde sait que je ne peux pas réclamer quoi que ce soit puisque j'ai été condamné civilement, mais cette première journée d'audience montre déjà qu'il est prêt à se battre dans ce procès pénal. Il reviendra cet après-midi à la barre sur le cœur du sujet, l'arbitrage controversé qui lui vaut d'être poursuivi pour escroquerie et détournement de fonds publics.
Florence Turme qui suit pour France Culture ce procès de Bernard Tapie au tribunal correctionnel de Paris. La loi Pacte revient en deuxième lecture à l'Assemblée nationale aujourd'hui avec notamment la privatisation d'Aéroports de Paris. Un broglio hier au sein du gouvernement. Le porte-parole Benjamin Griveaux assurait que l'État garderait 20% du capital d'ADP avant de se raviser dans la journée. À droite comme à gauche, les députés s'opposent à cette privatisation. Du camembert de Normandie dans les couloirs de l'Assemblée nationale ce mercredi. Un député du Loiret, Richard Ramos, organisera la distribution de ce fromage AOP. Il conteste en fait une possible décision de l'INAO, l'Institut National des Appellations d'Origine, qui pourrait reconnaître le camembert industriel fabriqué au lait pasteurisé comme une appellation d'origine protégée. Il n'y aurait donc plus seulement du lait cru, moulé selon une gestuelle particulière. Anne-Laure Chouin nous explique le pourquoi du comment.
C'est un conflit ancien. En 2007, déjà, le géant mondial du lait Lactalis avait bataillé ferme contre plusieurs petites fromageries normandes pour que le camembert AOP ne soit plus uniquement au lait cru. Une façon de pouvoir garder l'appellation et donc la confiance du consommateur tout en produisant le fromage de façon industrielle. Bref, d'avoir le beurre et l'argent du beurre. Or, tout indique que dès 2021, l'INAO, l'institut qui produit le cahier des charges des appellations d'origine, va permettre de labelliser AOP 2 versions du camembert. Le véritable, qui prévoit au moins 65% de vaches normandes dans les troupeaux, 6 mois de pâturage par an, pas d'OGM, du lait cru bien sûr et 5 étapes de moulage. Et un autre, qui sera difficile à différencier pour le consommateur avec 30% seulement de lait de vache normande et un processus de pasteurisation. L'INAO se justifie par la difficulté de défendre cet AOP à Bruxelles, sans plus de précision. Les industriels du lait, eux, prétendent offrir des opportunités à des producteurs de lait fragiles qui pourront ainsi mieux valoriser leur production. Ce qui met Richard Ramos, député du Loiret, dans tous ses états.
Ma conviction, c'est que si on va dans le lait pasteurisé, on donnera encore une fois l'avantage aux gros industriels. Moi, je dis aujourd'hui à l'INAO, ne tuez pas le goût français. Vous avez été là pour protéger les terroirs. Et le lait cru, c'est la protection des terroirs, c'est la protection des spécificités. Donc, reprenez le sens même pour lequel vous avez été créé.
Cette pasteurisation va effacer le goût, selon les défenseurs du camembert authentique, et surtout, elle risque d'ouvrir une boîte de Pandore pour les autres produits d'origine protégée. Ils ont donc décidé de se lancer dans la bataille médiatique.
Le temps sur les vaches laitières de Normandie ce mercredi, un peu comme ailleurs finalement, il sera marqué par des pluies et du vent. Il est au lait cru, Guillaume, vous
mais
avez évidemment, compris.
Mais évidemment, enfin, du camembert qui ne serait pas au lait cru, pourquoi pas du picodon au lait pasteurisé. Enfin,
vous serez donc à l'Assemblée nationale pour distribuer le camembert cet après-midi.
Avec Frédéric Seys également.
Nous irons, exactement.
On va y aller tous les trois.
Je vous donne rapidement la météo. Je disais en Normandie, mais c'est la même chose partout ailleurs, des pluies et du vent. Aujourd'hui, il fait 7 degrés à Strasbourg et à Limoges, 8 en région parisienne, à Lille également, 9 degrés ce matin à Bordeaux et Lyon, comptez 12 à 14 près de la Méditerranée.
Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal.